Europe 1.
Le journal de 6h présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Combien doivent gagner nos enseignants? Question posée depuis hier au ministère de l'Éducation nationale. Début des concertations avec les syndicats. Au moins 2000 euros net par mois, c'est l'engagement du gouvernement pour la rentrée prochaine.
Et chez nos voisins européens, combien gagnent les professeurs? Où se situe la France par rapport à la moyenne? Réponse dans le rapport de l'OCDE publié hier.
Et Louis Salé, vous avez décortiqué ce document pour Europe 1. Année après année, l'organisation dresse toujours le même constat, Louise. Quand il s'agit de payer ses professeurs, la France est à la traîne.
Oui, en France, les maîtres et les maîtresses avec 15 ans d'expérience gagnent 20% de moins environ que la moyenne des pays développés, soit 33 000 euros bruts par an. Et dans le secondaire, c'est près de 15% de moins. En Allemagne, par exemple, les enseignants gagnent deux fois plus, soit près de 65 000 euros en primaire. Mais revaloriser les salaires n'est pas l'unique solution pour doper l'attractivité du métier. Éric Charbonnier est analyste éducation à l'OCDE.
En Allemagne, on a la plus grande crise d'attractivité du métier jamais vue dans le pays. On s'est rendu compte en Allemagne que les enseignants se plaignaient d'avoir davantage de tâches administratives à faire, d'avoir une pression des parents de plus en plus forte. C'est une leçon à retenir pour l'ensemble des pays de l'OCDE. Il faut aussi que le métier évolue pour qu'il devienne passionnant et stimulant.
En France, le salaire bas est lié à une autre organisation du travail, le temps du prof face aux élèves. Il est plus faible qu'au Royaume-Uni, qu'au Portugal ou qu'en Finlande, par exemple, où l'aide aux devoirs est plus importante, ce qui augmente le nombre d'heures dans l'établissement et la rémunération. Enfin, autre problématique qui distingue la France, la stagnation des salaires en milieu de carrière. Il faut 35 ans aux enseignants pour passer du salaire de départ au salaire le plus élevé, contre 26 ans en moyenne dans l'OCDE.
Louis Salé, spécialiste éducation d'Europe 1.
Europe 1, 6h02, ils resteront à leur poste. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée. Les deux hommes sont soutenus par l'exécutif malgré leurs déboires judiciaires.
Oui, Éric Dupond-Moretti est renvoyé devant la Cour de justice de la République. Un procès inédit pour un ministre en exercice, soupçonné d'avoir profité de son statut pour régler ses comptes avec des magistrats. Il compte se pourvoir en cassation. Alexis Kohler, lui, est mis en examen pour prise illégale d'intérêt.
Oui, le secrétaire général de l'Élysée n'aurait pas déclaré ses liens avec l'armateur MSC, entreprise fondée et dirigée par les cousins de sa mère.
Et là, la justice soupçonne un conflit d'intérêt avec son poste dans la fonction publique. Le bras droit d'Emmanuel Macron conteste tout délit. Une situation intenable pour Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise.
On savait que Emmanuel Macron et les gens qui l'entouraient étaient dans la collusion avec ce qu'on pourrait appeler le grand capital, ou en tout cas les intérêts financiers, les intérêts d'argent. Et là, ça vient se vérifier dans deux affaires distinctes. Pour Alexis Kohler, MSC, moi j'avais suivi le dossier de très près avec Anticor et la plainte d'Anticor au départ, le classement sans suite. Vous savez, c'est l'affaire dans laquelle Emmanuel Macron a couvert Alexis Kohler. Peut-être qu'il y a à travailler sur le démantèlement d'un certain nombre de systèmes mafieux dans le pays. La principale difficulté, c'est que si la pyramide du système mafieux s'appelle Emmanuel Macron et que son premier acolyte, c'est le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, ça va être compliqué. C'est pourquoi je pense que c'est une affaire éminemment politique et extraordinaire sous cette Ve République.
Le député de la France Insoumise, Hugo Bernalicis, au micro d'Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
Des sanctions contre le régime iranien, promesse de Joe Biden hier soir.
Le président américain préoccupé, je cite, par la violence des répressions dans le pays. Les États-Unis d'ailleurs accusés par Téhéran d'être à l'origine de ces manifestations qui concernent désormais les universités. Sur Europe 1 ce matin, nous vous proposons le témoignage d'un habitant du nord de l'Iran. Il s'appelle Shiava et il s'est confié à Clotilde Dumay.
Malgré les coupures internet, ce membre de la résistance a réussi à me faire parvenir son témoignage via messagerie cryptée.
Les commerçants ferment leurs magasins, les étudiants descendent dans la rue. C'est la situation dans la plupart des provinces. Tout le monde est bouleversé, tout le monde est en colère.
Au début, les Iraniens manifestaient pour les droits des femmes. Ils demandent désormais la fin du régime, quitte à risquer leur vie.
Le régime de Khamenei tue des gens. Il a tué beaucoup de jeunes, mais les gens continuent à manifester et à scander des slogans contre Khamenei et Raïsi en les traitant de dictateurs et de bourreaux.
Près d'une centaine de personnes sont mortes depuis le début des manifestations, d'après une ONG locale. Mais Siavash l'assure.
Même en cas de catastrophe humanitaire ou de génocide, le peuple vaincra.
Clotilde Dumay. Hier soir à Nantes, une manifestation pour les femmes iraniennes a rassemblé 250 personnes. À Montpellier, une banderole de soutien a aussi été déployée sur la façade de l'hôtel de ville. 6h05 sur Europe 1, votre actualité sportive aussi ce matin. Avec cette information tombée hier soir, Paris n'installera ni fanzone ni écran géant pour la prochaine Coupe du Monde de foot.
Ouais, la mairie de Paris évoque les conditions d'organisation de ce mondial. Selon l'Organisation mondiale du travail, 50 personnes sont mortes au Qatar lors de la construction de ces stades climatisés. Une décision plutôt comprise par les Parisiens rencontrés par Europe 1.
Bah, je trouve que c'est bien qu'ils le fassent. Je pensais la boycotter aussi. Je pense que cette Coupe du Monde, elle a aucun sens.
On pourrait peut-être croire que c'est juste une position politique, une position d'image, du greenwashing quelque part. Mais du coup, je pense que ça reste quand même une bonne chose. Donc tant mieux.
Je trouve ça très bien ce boycott et je comprends toujours pas comment on peut encore accepter que l'équipe de France aille là-bas.
C'est surtout hypocrite, je trouve. Maintenant qu'on envoie l'équipe de France, bah faut laisser les fans profiter. Ils ont le droit de regarder la compétition.
Bien sûr, on va aller dans des bars, des restaurants, regarder les matchs.
Un témoignage de Parisiens recueilli par Chloé Lagarde et Louise Douillet pour Europe 1. Paris qui rejoint donc la liste des grandes villes qui feront l'impasse sur le mondial, 7 au total, dont Strasbourg, Lille, Bordeaux et Marseille.
Marseille, justement, où les supporters de l'OM ne vont évidemment pas manquer le match prévu ce soir.
Oui, puisque les Olympiens jouent en Ligue des Champions, rencontre avec le Sporting Portugal, leader de la poule. Dernière chance pour les Marseillais qui espèrent rester dans la compétition. Un match dans un stade Vélodrome à huis clos, sanction après les incidents face à Francfort le mois dernier. Le reportage du correspondant d'Europe 1 à Marseille, Stéphane Burgat.
Rhétorique guerrière à l'appui, l'OM aborde cette rencontre en mode commando, selon le défenseur Chancel Bemba.
Quand je regarde mes coéquipiers, on va partir à la guerre. On sait très bien, Sporting c'est une très bonne équipe. On a loupé des matchs, on ne va pas baisser les bras. On a envie, dans la Ligue des Champions, on a l'esprit de gagner.
Plus le droit à l'erreur, les Olympiens se méfient des Lisboètes du Sporting, malmenés dans leur championnat, mais qui réalisent un sans faute en ce début de Ligue des Champions. Et pour ce match couperé, difficulté supplémentaire, il faudra composer sans l'appui du public. Au plus mauvais moment, l'OM est pénalisé par la faute de certains de ses supporters, déplore Michel, un habitué du Vélodrome.
Ça me gêne qu'un petit groupe puisse bloquer tout le monde. Et nous, on va être pénalisés à cause d'un petit groupe qui met la merde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ils sont incapables de se dire un jour, on va arrêter parce qu'il y a des conséquences qui sont trop graves. Donc c'est sans fin.
Dernière chance pour l'OM face au Sporting Portugal. Coup d'envoi à 18h45. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Et pour l'après-match, je vous donne rendez-vous dans Europe 1 Sport, 20h-23h, vous le savez, autour de Virginie Fulpin et son équipe.
Les sportifs marseillais décidément à l'honneur ce matin sur Europe 1 avec le sacre d'Arnaud Giralde.
Oui, le Français a été sacré hier champion du monde d'apnée. Une plongée, tenez-vous bien, à 123 mètres de profondeur pendant plus de 3 minutes. Il paraît qu'à cette profondeur, nos poumons font la taille d'une orange. Je vous laisse imaginer, sacrée performance qui lui permet de décrocher son deuxième titre mondial à seulement 26 ans.
C'était le journal des sports avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Et puis une fois n'est pas coutume, on fête un anniversaire. 75 ans aujourd'hui pour ce chanteur français. Bon anniversaire à Julien Clerc et son cœur de rocker. J'ai pas choisi la plus récente, mais elle est quand même excellente. 1982.
Ça tombe bien, c'est pas non plus la moins bonne. Si jamais il y en a.
Ouais, si jamais il y en a, c'est sûr.
Merci Romain. Ok, c'était le journal de 6h sur Europe 1.